Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
La fête de l'énergie a lieu sur les lieux le samedi 17 octobre avec plusieurs rendez-vous. On en parle avec Michel Charroux, chargé du développement économique à la mairie de Lieu. Bonjour Michel.
Salut Roland.
Samuel Le Goff, chargé de mission transition énergétique et Lieu 2030 à la mairie de Lieu. Bonjour Samuel.
Bonjour Roland.
Pierre Gorsic, conseiller énergie à l'espace Info Énergie de La Roche-sur-Yon. Bonjour Pierre.
Bonjour Roland.
Michel, pourquoi la fête de l'énergie ?
Alors, c'est un ensemble qui existe maintenant partout en France et qui a pour but de mettre en avant un peu l'importance que revêt pour nous cette énergie dont nous avons besoin. L'énergie, de manière générale, on pourrait un peu la comparer à notre nourriture, quoi. C'est-à-dire, de même que on se nourrit, on a des aliments, mais il ne faut pas non plus qu'on en consomme trop, il faut qu'on la choisisse bien, il y a la bonne nourriture et la mauvaise nourriture, les médecins nous rappellent. L'énergie, c'est très important, c'est nécessaire à notre vie parce qu'on en a besoin pour se déplacer, on en a besoin pour se chauffer, on en a besoin pour produire, que ce soit dans la production industrielle ou dans la production artisanale ou agricole, mais cette énergie, pour la produire, elle consomme des moyens qui souvent sont nécessaires d'une autre manière. Et si on a trop d'énergie, on épuise en fait toutes ces matières premières. Et puis on produit à ce moment-là des gaz à effet de serre, on produit du CO2. Et donc il faut savoir la maîtriser, il faut savoir faire attention, il faut savoir la consommer avec modération. Donc c'est ça un petit peu qui est important dans ces fêtes de l'énergie, c'est démontrer tout son intérêt. On n'est pas contre donc l'énergie, bien évidemment, mais on essaie de montrer pourquoi il faut faire très attention, pourquoi il faut choisir cette énergie, pourquoi il faut essayer de la consommer avec modération. Et cette fête de l'énergie, en même temps, elle se situe quelques semaines avant le démarrage de ce qu'on appelle la COP21, c'est-à-dire la conférence des parties, la 21e conférence des parties sur le climat, et qui se tiendra donc à partir du dernier jour du mois de novembre,
à Paris.
Le premier jour à Paris, le premier jour du mois de décembre, qui va réunir tous les pays donc, du monde, sous l'autorité, je dirais, de l'ONU, et qui a pour but, justement, entre tous les pays, de voir un peu ce qu'on peut faire pour limiter tous les impacts du réchauffement dû justement, entre autres, à la production de CO2 et du gaz à effet de serre, et dû essentiellement, justement, à cette utilisation de l'énergie pour essayer de mieux maîtriser les effets sur le réchauffement climatique. Voilà. Donc, cette fête de l'énergie, elle se situe bien à ce moment-là.
La fête de l'énergie, c'est plutôt faire des économies d'énergie, non ? Le thème principal. Samuel ou Pierre ?
Alors, on va parler effectivement des économies d'énergie, puisque ça va faire partie des différents ateliers dans le courant de la journée. Mais pas que, on va aussi parler des énergies renouvelables. L'objectif aussi de cette journée-là, c'est de faire connaître l'espace Info-Énergie, c'est de faire connaître l'association Élise qui porte l'espace Info-Énergie. Donc il y a des permanences déjà qui sont réalisées sur un lieu-dieu, par Pierre ici est présent. Et voilà, donc on va parler des économies d'énergie, de l'utilisation des énergies renouvelables à travers différents ateliers tout au long de la journée.
Pierre Gorsic, on peut rappeler un petit peu le rôle de l'espace Info-Énergie ? Alors, de La Roche-sur-Yon et notamment sur les lieux, car vous venez souvent sur les lieux.
De plus en plus, oui. J'y prends goût, donc c'est très bien.
Nous sommes ravis, nous aussi.
Donc en fait, l'espace Info-Énergie, c'est avant tout une mission de service public qui a été inventée suite en fait à la signature du protocole de Kyoto de l'État français, qui a ramené en fait la problématique des économies d'énergie sur son territoire et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, tout de suite après Kyoto, il y a eu une grosse réflexion sur comment on pouvait sensibiliser et apporter des informations concrètes aux particuliers. Et c'est comme ça qu'en fait, l'État s'est tourné vers l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc qui est l'ADEME. Et dès 2001, il a été déployé sur l'ensemble en fait, du territoire en France métropolitaine, mais Outre-mer également. Eh bien, ce qui s'appelait à l'époque des points info-énergie et qui, avec le temps, s'est transformé en espace info-énergie. Et donc, les missions sont relativement simples, mais...
Compliquées ?
Non, mais...
Et très vastes aussi ?
Et méconnues, malheureusement. Donc, c'est l'accompagnement des particuliers qui ont des projets autour de l'énergie. Donc, ça peut être des projets de rénovation, de construction, des projets également de développement des énergies renouvelables. Et puis, le transport, de plus en plus, hein, qui arrive aussi comme une question centrale, puisque les transports représentent à peu près 50% de notre consommation énergétique.
Transport, notamment véhicules électriques, non ?
Alors, tout compris. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur les transports véhicules motorisés ou pas. Et c'est vrai que ce qui pèse lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il y a notamment les transports et l'utilisation de la voiture classique avec un moteur thermique. Voilà, donc qui sont essentiellement aujourd'hui basés sur l'utilisation du diesel ou de l'essence. Voilà.
Par exemple, pour chez soi, si on veut changer son mode de chauffage, on peut vous faire appel ?
Eh bien oui, on est là pour ça. En fait, l'idée, c'est que...
Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, au départ, nous sommes donc des techniciens spécialisés dans la maîtrise de l'énergie. Donc, ça va passer sur le mode de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, mais avant tout, l'isolation. Hein, c'est là-dessus, en fait, que réside finalement le gros du travail de sensibilisation. Parce que c'est vrai que quand on a un problème de facture énergétique, le premier réflexe que l'on peut avoir, c'est... alors déjà, on coupe, hein, c'est-à-dire qu'on se prive de chauffage. Donc ça, ce n'est pas une solution en soi, hein, puisqu'on baisse dans le confort et en plus, on peut mettre sa santé aussi en danger. Ensuite, si on a les moyens, on va se dire, bon, bah, c'est que mon mode de chauffage n'est pas suffisant. Donc on va essayer de renforcer le chauffage ou alors de voir une solution peut-être plus économique, mais en euros. Sauf que le nœud du problème, généralement, il réside sur la base, c'est-à-dire l'isolation, c'est-à-dire le véritable besoin. Et c'est vrai que quand on travaille l'isolation en premier, eh bien, on se rend compte que finalement, son chauffage n'était pas si mal dimensionné que ça. Et on va augmenter en confort, on va limiter les impacts de l'humidité notamment. Enfin voilà, en fait, il y a tout un cercle comme ça où le travail des espaces info-énergie va s'inscrire justement sur l'accompagnement et la compréhension des projets des particuliers. Et on essaye de se caler au cas par cas, pratiquement. Hein, c'est un peu l'idée.
Cas par cas, vous allez chez les gens, Pierre, ou pas du tout ?
Alors,
c'est vraiment de l'information pure et dure.
Dans le cadre de l'espace info-énergie, c'est vraiment... Alors, on envoie en fait des documents qui peuvent préparer les rendez-vous. C'est-à-dire que si on est sur un projet qui est d'ordre plutôt global, on va essayer de guider la réflexion en amont en donnant un questionnaire qui va permettre aussi aux particuliers de préparer bien comme il faut le rendez-vous en se posant les bonnes questions. Et à partir de là, je dirais, évidemment, on est sur du déclaratif et puis les gens ne maîtrisent pas toujours ce qu'il y a derrière des parois. Mais en attendant, ça permet quand même d'avoir des bases assez intéressantes pour pouvoir élaborer déjà un premier schéma.
Pour se dire où on veut aller.
Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on veut aller et est-ce que c'est pertinent surtout ? En fait, il y a une question de pertinence et puis de construction, de hiérarchisation au fait des travaux dans le temps. Et il y en a qui vont être plus urgents que d'autres. On peut établir un plan de rénovation sur 5 ans, par exemple. Ça peut être tout à fait pertinent. Et du coup, voilà, on est là justement pour pas commencer à l'envers et mettre la charrue avant les bœufs, quoi.
Et pour tous ces changements, il y a des aides de l'État ?
Alors voilà, alors ça c'est...
C'est aussi une mission de l'espace info-énergie ?
Tout à fait, c'est-à-dire que, je dirais, en vis-à-vis des solutions techniques qui peuvent être apportées à des cas concrets, on va essayer de construire en parallèle le meilleur mode de financement possible. Alors évidemment, c'est plus ou moins complexe. Il y a des personnes pour qui, ou des cas, par exemple, sur des maisons secondaires où il y a très très peu d'aide. Donc, je dirais, c'est assez vite traité. Mais après, vous avez des cas particuliers où là, on a des aides multiples comme l'ANA avec les aides de la région, par exemple, qui viennent avec le crédit d'impôt et des incitations qui peuvent être aussi d'ordre privé. Donc là, effectivement, il y a un véritable besoin d'être accompagné et d'être redirigé aussi vers les instances dont c'est le métier. Voilà.
Samuel, quelque chose à rajouter, oui.
Oui, je voulais simplement dire quand même que les conseils de Pierre, ce sont des conseils qui sont gratuits et qui sont complètement objectifs. Donc ça, c'est important. Tout le monde y a accès, tout le monde peut appeler le numéro de l'espace info-énergie, tout le monde peut rencontrer
Pierre. Pierre, tu peux rappeler le numéro
oui,
de téléphone de l'espace info-énergie à La Roche-sur-Yon.
Voilà, donc c'est le 02 51 08 82 27. Voilà.
Il y a aussi des permanences à La Roche-sur-Yon.
Ah oui, alors en fait, ça, vous pouvez nous contacter tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à ce numéro-là. Après, si, alors c'est pas impossible qu'on soit déjà en rendez-vous, donc laissez un message et puis on vous rappelle. Si vous êtes, alors ça peut être une question qui peut être traitée très rapidement. S'il y a besoin d'un rendez-vous, eh bien justement, avec la mairie de Lisieux, eh bien on a mis un rythme pour l'instant où c'est tous les mois et demi. Hein, on a pris à peu près ce pas de temps-là, mais si on se rend compte qu'il y a plus de besoins, peut-être qu'on reverra le système. Peut-être qu'on essaiera d'intercaler des permanences à distance avec des visioconférences. Enfin, voilà. Donc, mais on ne peut pas mettre en place s'il n'y a pas de demande. Donc, voilà. Si vous vous sentez concerné par l'énergie, téléphonez-nous. Et après, on va analyser comment on peut vous répondre au mieux, quoi.
Pierre, tu es souvent sur les lieux. Il y a du boulot à faire sur les lieux?
Et oui, alors après, ça, c'est mon deuxième chapeau. En fait, donc, l'espace Infoénergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une mission de service public qui est portée par une association qui s'appelle l'association Élise et qui, dans son travail, en fait, travaille sur la transition énergétique, je dirais, dans ses grandes lignes, avec des spécialisations. Donc, une des spécialisations de l'association Élise, c'est l'animation territoriale. Et c'est à ce titre, en fait, qu'on a un partenariat avec la mairie de Lille-Dieu, mais d'autres partenaires comme l'école des mines et puis le
CIDEV. L'école des mines de Nantes, oui.
L'école des mines de Nantes, oui, pardon. Et donc le CIDEV, GRDF, enfin, voilà, avec toute cette dynamique qui a été lancée le 30 septembre par M. Nourry et donc Michel. Voilà.
Michel, tu avais quelque chose à rajouter?
Mais je voulais simplement dire, en entendant Pierre, c'est simplement cette phrase qu'il connaît bien parce que. On l'a dit souvent, mais j'aime bien, moi, la répéter, c'est que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas.
Tout à fait.
C'est-à-dire, en fait, il y a de multiples moyens de diminuer sa consommation d'énergie, des moyens auxquels, parfois, on ne pense pas, et ça ne coûte rien du tout, hein, mais ça rapporte de l'argent, quoi, et en même temps, ce sont des gestes. En fait,
un moyen simple, c'est baisser son chauffage à 19 au lieu de le mettre à 20. C'est oui. Déjà une première chose.
Oui, tout à fait. Au lieu de...
Pierre,
de...
si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à interagir.
À bondir. Non, ne t'inquiète pas, je ne t'agresserai pas.
Oui, enfin voilà, il y a des tas de moyens qui sont relativement efficaces. Et puis après, dans le choix des investissements à faire, selon effectivement, moi j'ai été dans le même cas. Moi j'avais une maison ancienne hein, qui date du début du... 20e siècle, et donc...
Tu dirais que c'était une passoire?
Oui.
Ouais, on peut dire ça comme ça, oui.
Oui, c'était une véritable passoire. Donc, progressivement, depuis 15 ans, je l'améliore avec des choix d'investissement qui permettent d'acquérir beaucoup de confort et de voir diminuer fortement ma consommation d'électricité.
Quel choix d'investissement?
Par exemple, un choix, mais ça se fait maintenant beaucoup sur les lieux, c'est de commencer par travailler par le dessus. Mmh. C'est-à-dire que là où on perd le plus d'énergie, c'est par la toiture. Parce que
c'est ce que disait Pierre tout à l'heure.
Ah oui, parce que les toitures traditionnelles de Lille-Dieu, c'était un plancher et des tuiles dans le dessus. Point. Hein, c'est-à-dire. Alors là, c'est vraiment terrible. Mais il faut en même temps réfléchir avant de faire les travaux, parce que très souvent, moi je l'ai vu en tout cas à mes dépens, les maçons qui travaillent bien sur les lieux, mais parfois ils n'ont pas en tête les dernières réglementations. Et les dernières réglementations thermiques imposent, et entre autres pour avoir droit justement ensuite à une défiscalisation.
Crédit d'impôt, oui.
Oui, c'est ça, sous forme de crédit d'impôt, imposent à ce qui est des isolations minimales, quoi. Or, avec les nouvelles réglementations thermiques, elles ont considérablement augmenté. Ce qui est très bien, d'autant plus qu'en fait, ça ne coûte pratiquement pas beaucoup plus cher de mettre un peu plus d'isolation. Hein, et donc, il faut effectivement avoir ces minimums. Et ça, l'espace Info Énergie pourra vous dire exactement ce qui est nécessaire de faire. Moi, je me suis fait avoir aussi, parce que l'espace Info Énergie, à l'époque, ne venait pas sur les lieux, c'est qu'en fait, je n'ai pas pu avoir de crédit d'impôt parce que j'avais... pas fait ça dans les bonnes... j'avais acheté moi-même...
les matériaux, mais fait passer matériaux par un professionnel.
Exactement, Roland. Non, je m'étais fait avoir, j'ai pas pu avoir.
La fête de l'énergie, on l'appelle, c'est le samedi 17 octobre sur les lieux. Premier rendez-vous à 10h avec l'escadrille Bistro Énergie, des économies d'énergie au quotidien. Vous allez donner des pistes pour faire des économies d'énergie? Ou vous allez plutôt parler de famille énergie positive ou les deux?
Eh ben, t'as tout à fait compris, Roland. On va faire les deux. Et puis, on peut élargir la conversation en fonction des questions qu'il va y avoir, des personnes qu'on va rencontrer. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de discuter autour d'un bon bol de café ou de thé, hein, suivant. Et puis, voilà, autour de l'énergie et d'amorcer comme ça la discussion tout au long de la matinée. Alors, on va parler du défi des familles énergie positive, notamment.
On peut rappeler un petit peu le principe.
Ouais,
des familles énergie positive.
Je vais laisser la parole à Pierre là-dessus, qui va très bien vous expliquer ça.
Pierre de l'espace Info Énergie de La Roche-sur-Yon.
Voilà, merci. Donc, le défi Famille Énergie Positive, on rentre dans la cinquième année maintenant en Vendée.
C'est un beau succès, cette...
Ah ouais, et puis chaque année, il y a de plus en plus en fait, de participants. C'est un événement maintenant national, hein, c'est-à-dire qu'on a été la troisième région à partir sur ce défi, et maintenant, ça a fait des petits, donc c'est qu'on a bien travaillé aussi. Donc le principe, il est relativement simple. Alors, juste pour rappeler que l'île-dieu n'est pas totalement inconnu dans ce défi, hein, parce qu'il y a déjà eu deux saisons sur lesquelles des particuliers se sont pris au jeu justement du défi. Donc l'idée, c'est on s'organise autour, enfin dans une équipe. Donc une équipe, il y a, je dirais, un animateur qu'on appelle le capitaine, mais moi j'aime bien dire un animateur d'équipe. Et cet animateur, lui, il va essayer de constituer une équipe de 7-8 foyers à peu près, avec comme objectif de faire 8% d'économie d'énergie à partir de gestes simples, en fait, d'éco-gestes et de tout petits investissements comme des mousseurs, par exemple.
Des mousseurs ?
Oui, les mousseurs, en fait, qu'on met sur les robinets d'eau, qui permettent, en fait, de limiter le débit, en fait. Et donc là, on va faire des économies et d'eau et d'énergie. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des petites choses comme ça. Alors, évidemment, on est équipé de tout un tas de documents, dont un principal qui est le livre des 100 éco-gestes, et dans lequel, en fait, on va pouvoir puiser et faire son auto-diagnostic, en fait, pour pouvoir se dire, bon, bah tiens, voilà, moi, à la maison, avec la famille, eh bien, alors, ça marche quand on est tout seul aussi, hein, pour moi, famille, c'est foyer, quoi. Hein. Eh bien, on va pouvoir établir des stratégies, par exemple, en disant, bon, bah on va commencer petit, en ayant comme objectif, eh bien, de rajouter un éco-geste par semaine, par exemple, ou tous les 15 jours, ou tous les 3 semaines. Et là, on voit en fait progressivement qu'on va avoir un impact réel sur sa facture. Alors évidemment, il y a des gestes qui paraissent pour certains très simples, puis pour d'autres très compliqués.
Quels sont d'ailleurs les principaux éco-gestes ?
Alors en fait, je dirais, ceux qui ont le plus de poids, c'est généralement ceux qui vont avoir un lien avec le chauffage. Mais ça, c'est vrai quand on est sur des maisons qui sont moyennement isolées ou pas isolées. Si on est dans une maison, je dirais, qui répond justement aux dernières réglementations thermiques, évidemment, là, le chauffage, comme proportionnellement, il est très réduit. Du coup, l'éclairage, par exemple, ou la cuisson, peuvent prendre beaucoup d'importance. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Hein, un éco-geste comme celui de mettre un couvercle sur la casserole, si on est dans une passoire énergétique, il ne se verra pas. C'est-à-dire
ça ne changera rien, oui.
Bah, c'est pas que ça ne changera rien, ça va agir à son niveau, mais ce sera quasiment invisible par rapport au résultat final. Alors que le même geste dans une maison basse consommation, bah du coup, on va avoir beaucoup d'importance puisque le chauffage est réduit. Et donc là, la consommation de cuisson va tout de suite prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, vous voyez, en fait, je ne peux pas être catégorique sur il faudrait faire ça en premier ou ça. Et c'est pour ça qu'il y a un outil qui est le site internet en fait, du défi Famille Énergie Positive, ou suite à votre inscription, donc une inscription qui est gratuite, évidemment, hein, c'est libre, gratuit, et ça vous donne accès, en fait, à des documents. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est préinscrit, eh bien, on va avoir accès à un quiz où on va vous poser 100 questions, et ces 100 questions sont en relation, justement, avec des éco-gestes. Et le fait de répondre à ces 100 questions, eh bien, ça va vous construire votre auto-diagnostic. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, eh bien, on va vous guider sur « avez-vous pensé à faire ci ?» ou « est-ce que vous faites déjà ça ?» Voilà. Et donc, du coup, en fonction, je dirais, de ces propositions, vous dites « bah oui, pourquoi pas ?» ou « non, ça, c'est impossible à la maison, je ne le ferai jamais avaler. » Enfin, et donc, du coup, en fonction de ces deuxièmes réponses, eh bien là, on va vous dire « bon, bah, voilà, vous avez un potentiel de 30% d'économie d'énergie ou 40% d'économie d'énergie. » Vous voyez ?
Éteindre sa veilleuse de la télé, c'est un éco-geste ou pas ?
Ah bah bien sûr, c'est même fondamental, c'est-à-dire que quand on additionne toutes les veilles, on est à peu près à 40 euros annuels, ce qui correspond, on est sur, il faut que je fasse ma traduction, en fait 1 watt de puissance, une petite veille de 1 watt, donc qui est quasiment le minimum, hein, donc ça correspond à un chargeur de téléphone en gros, aujourd'hui. Un watt, c'est si on le laisse brancher toute l'année, on multiplie par 8000 et quelques. Hein, donc ça fait 8000 et quelques kilowattheures que l'on multiplie par 15 centimes. Voilà, donc ça fait à peu près 1 euro ça fait 8 kWh, pardon. 8 kWh à 15 centimes, ça fait 1 euro à la fin. Voilà.
Et éteindre son ordinateur à chaque fois qu'on ne l'utilise pas, ou on peut le laisser du matin au soir allumé?
En fait, là, il y a un éco-geste qui est le. Et vous allez le faire une fois pour toutes. En fait, vous allez dans les paramètres et vous réglez le niveau de veille, c'est-à-dire se met automatiquement en veille au bout de 10 minutes, par exemple, et veille prolongée au bout de 20 minutes. Et ça fait que finalement, même si vous êtes étourdi, bon, il y a l'ordinateur vous rappelle. Enfin, mais en attendant, vous êtes toujours en veille. C'est bien marqué veille prolongée. Voilà.
L'ordinateur n'est pas éteint, mais il consomme moins d'énergie.
Il consomme moins d'énergie. Mais c'est une solution.
C'est déjà un premier pas.
Oui. Mais disons que ça peut être très intéressant, par exemple, pour des personnes qui travaillent sur des ordinateurs et qui s'absentent, qui ont des absences d'une demi-heure, par exemple. Où effectivement, c'est relativement pénible de devoir éteindre et rallumer, d'autant que vous avez des temps rallongés. Et donc, du coup, si vous, automatiquement, finalement, l'ordinateur, lui, il va plutôt réagir en se mettant en veille. Mais on est plus dans le cadre, je dirais, professionnel. Hein, parce que si on est dans le cadre.
Particulier.
La vie personnelle, on a rarement ce rythme-là sur un ordinateur. En fait, ça ne correspond pas trop à un rythme de maison.
Autre rendez-vous durant la fête de l'énergie sur l'île-dieu à 16h, un voyage très spatial. Samuel, peux-tu nous en parler?
Oui, c'est ça. Alors en fait, ça c'est un spectacle plutôt pour les enfants, hein. C'est une cible de 3 à 11 ans, mais voilà, les adultes sont bien évidemment conviés puisque ça s'adresse à tout le monde. Alors pour précision, au niveau du lieu, ça se fera bien au casino.
C'est bien au casino
voilà.
À 16h.
Voilà, parce que c'était marqué École du Ponant sur le programme et du coup on va faire un petit changement. Parce que ce sera plus confortable, il fera moins froid dans la salle, etc. Donc ce sera bien au casino. Et alors là, c'est un spectacle très visuel qui va être hyper intéressant. Il y aura des bricolages, ça va être assez rigolo. Enfin voilà, c'est vraiment l'histoire. Je vais pas essayer de trop dévoiler, mais une personne qui arrive, un extraterrestre, qui découvre un petit peu, voilà, c'est ça, qui découvre un petit peu le monde sur lequel il arrive, et du coup, bah, il fait tout un tas d'explications, de constatations, de découvertes. Donc voilà, c'est très familial, tout public.
C'est à partir de quel âge ce spectacle?
À partir de 3 ans, voilà.
On reste au casino dès 18h, conférence gestualisée.
Non, gesticuler.
Gesticuler, merci Michel. Quand les nains jouent au géant vert.
Oui, alors ben là je vais pouvoir apporter un petit...
Pierre Gorsic, oui.
Voilà, en fait, conférence gesticulée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle façon d'intervenir et d'apporter en fait des connaissances. Donc on est bien sur des apports, d'ordre théorique, d'une conférence, mais la forme change, c'est-à-dire que c'est théâtralisé et on est plutôt sur la forme d'une pièce de théâtre qui est un petit one-man show, hein, je dirais.
C'est plus vivant pour le public.
Ah, et puis c'est surtout qu'il y a des moments où on rigole, en fait, c'est vraiment un partage.
Oui, c'est vraiment pas du tout une conférence.
Ah oui, non, c'est vraiment un format particulier, conférence gesticulée, voilà, c'est un apport de connaissances et de débat. Mais à travers une forme théâtralisée. Voilà. Et c'est vrai que, pour en avoir vu plusieurs sur le sujet de l'énergie, à chaque fois, on est souvent pris dans le contre-pied. Et c'est ça qui aussi permet l'émulation et le débat par la suite. Alors, cette conférence-là, elle a pour sujet, quand les nains jouent au géant vert, c'est l'énergie, mais la production d'énergie. C'est comment on peut, en tant que citoyen, je dirais lambda à la base, s'intéresser à la production d'énergie, notamment énergie renouvelable, parce que c'est aujourd'hui celle qui est à notre portée. Comment, en tant que citoyen, on peut se mobiliser et aller vers de la production d'énergie renouvelable que l'on appelle citoyenne, c'est-à-dire avec des financements de citoyens, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une dimension de gouvernance. C'est-à-dire que l'idée majeure, c'est nous avons un territoire, nous souhaitons développer des énergies renouvelables sur ce territoire, et il faut que ces énergies renouvelables, les retombées de cette production, retombe bien sur le territoire lui-même, et que les gens qui habitent ce territoire aient un mot à dire aussi sur l'utilisation de ces retombées. Et ça, c'est quelque chose de très novateur par rapport au montage de projets. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie renouvelable citoyenne. Et c'est ce sujet-là que souhaite aborder, en fait, le conférencier dans son interprétation de samedi.
À 20h, toujours au casino, un atelier production d'énergie renouvelable. Que peuvent faire les idées? C'est une bonne question, je vous la pose. Et merci de ne pas répondre, venir à l'atelier.
C'est ce qu'on allait te répondre.
Voilà, c'est pour ça, j'anticipe maintenant, je vous connais.
C'est ça.
Alors ce sera à 20h30.
Pierre Ousmane, c'est 20h30.
Ouais, à 20h30. Oui. Voilà, donc là l'idée c'est de passer un petit peu à la phase pratique. Voilà, on a parlé d'énergie avant, au cours de la conférence gesticulée, donc ça va être dans la suite. Alors, du coup, entre les deux, il y aura, d'ailleurs, vous serez invité à un petit repas où chacun pourra apporter un petit peu ce qu'il veut.
C'est très important.
Voilà, c'est important, ça permettra d'échanger et en même temps de se restaurer, donc c'est pas plus mal. Et puis, donc là, concernant l'atelier, ça va être un petit peu la phase pratique. Et voilà, si on veut faire concrètement de l'énergie renouvelable sur l'île Dieu en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, effectivement, on va avoir tout un tas de réponses par rapport à ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre?
Ah ben, il faut venir samedi soir. Non, mais concrètement, il faut que déjà les gens prennent conscience que ça existe. Voilà, il y a des possibilités aujourd'hui de réfléchir à notre échelle de citoyens et de s'organiser de telle sorte que des projets locaux peuvent émerger. Et je dirais, avec la conférence et l'atelier, on est au niveau 1. Hein, c'est-à-dire que ça y est, on a commencé à faire un pas. Et après, il faut que les gens s'approprient cette question de l'énergie et de l'énergie citoyenne. Hein, c'est tout un cheminement, en fait. C'est toute une compréhension du contexte. Et ça commence par des rencontres, des échanges, des débats.
Mais concrètement, que peuvent faire les idées?
Eh bien... réfléchir et discuter et se regrouper, essayer de faire émerger des projets sur l'île, par exemple. Enfin, il y a des choses qui peuvent être menées par des associations, par exemple. Ça peut être des actions. Je pense que dans les semaines qui viennent, il y aura certainement des actions sur le thème de l'énergie, puisque ça devient véritablement une question centrale des échanges au quotidien. Donc, il y aura des choses qui vont se faire. L'idée, c'est ça, c'est de s'y intéresser et de construire sa culture énergétique. Et je pense que c'est vraiment le point de départ.
Samuel.
Oui, alors après, je ne sais pas si ça va être ça qui va être montré exactement au casino, mais je sais que par exemple, il y a l'idée des fours solaires, par exemple, que chacun peut faire en tant que particulier, qu'on peut utiliser, il y a des plans qui existent, etc. Je sais que l'association Élise était déjà venue sur l'île Dieu pour faire, là c'était avec les enfants cette fois-ci, des ateliers de fabrication de fours solaires, mais c'est un exemple d'une utilisation d'énergie solaire de manière très concrète, qu'on peut utiliser l'été au jardin, plutôt que de cuire l'eau sur le feu, on peut la cuire grâce aux rayons du soleil.
Michel Charbot, merci d'être venu sur l'antenne de Neptune FM, à très bientôt.
Ouais, salut Roland, bonsoir tout le monde.
Merci Samuel Le Goff, à très bientôt.
Ouais, merci Roland, merci à tous.
Merci Pierre Gorsic, à très bientôt.
Merci Roland, à bientôt.
On se retrouve dès lundi dans Je vous dis pas, on rentre dans une semaine spéciale Festival d'Hébernic en folie sur l'île Dieu. Pour la présentation de ce festival, on accueille dès lundi Jude et Clément. À lundi, bon week-end, bye bye.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.